Colonel Weigl, je vous remercie d'abord d'être venu jusqu'à nous, et notamment pour nous aider à faire justice d'une légende dorée qui voulait que l'armée d'armistice ne se livrât point à cette épuration technique remise en honneur, si j'ose dire, il y a peu, car vous allez, nous avons en parlé tout à l'heure, vous allez être viré de l'armée. Et c'est quelque chose qu'il faut tout de même rappeler. Vous êtes polytechnicien, vous êtes officier d'active, et vous êtes capitaine au moment de la déclaration de la guerre, affecté au groupe d'aviation de reconnaissance 135 dans le nord de la France. À la défaite, vous vous trouvez à Perpignan, pour recevoir l'ordre de regagner Alger, avec votre unité, plutôt de gagner Alger, puisque vous n'en venez pas.
Gagner, oui.
Vous songez immédiatement à gagner Gibraltar pour rejoindre Londres. À cette époque, lorsque l'armistice est signé, lorsque De Gaulle lance son appel à la radio de Londres, quel est votre état d'esprit? Quelles sont vos réactions?
Bon, j'ai entendu l'appel à l'armistice de Pétain le 17 à Perpignan et j'en ai été choqué. Lorsque mon groupe d'aviation a reçu l'ordre de passer en Algérie dans les jours suivants, ça m'a convenu absolument et je pensais que d'une manière ou d'une autre, je chercherais à continuer la guerre si c'était possible. Lorsque mon groupe a atterri à Alger, j'avais à ce moment-là décidé avec un camarade, pilote qui s'appelait Dalmont, que nous essaierions d'aller à Gibraltar. Mais la campagne avait été très dure, nous avions eu une campagne de, disons, de 10 juin 40 à la, du 10 mai 40 au mois de juin, très fatigante, et nous avons fait une faute, nous avons pris une nuit de repos. Le lendemain matin, nos avions n'étaient plus en état de voler, et nous avons été dans l'impossibilité de mettre notre projet à exécution, de nous rendre à Gibraltar. Alors nous avons passé à ce moment-là quelques semaines, quelques mois, deux mois je pense à Alger, à pratiquement ne rien faire, et j'ai demandé d'être remis à la disposition de mon arme d'origine, l'artillerie, et si possible au Maroc, ce que j'ai obtenu. Et je suis donc arrivé au Maroc avec l'idée que de là je pourrais plus facilement gagner Gibraltar et Londres. Je n'avais pas entendu l'appel du général de Gaulle, je ne l'ai jamais entendu d'ailleurs, mais on en a parlé à ce moment-là. Bon, je savais très bien qui était le général de Gaulle, parce que nous avions été dans la même garnison à Metz, et comment, il avait commandé un régiment de chars qui était caserné juste en face du quartier où mon propre régiment se trouvait. Donc ça ne posait pour moi aucun problème, si ce n'est un problème physique, de me rendre à Londres. C'est montré une chose extrêmement difficile.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer De Gaulle physiquement, j'entends, à Metz lorsqu'il était...
Je crois, mais avec je n'avais pas eu avec lui de conversation privée, particulière. Donc je n'ai aucun souvenir du général De Gaulle à Metz. C'était un nom. C'était plus qu'un nom parce que ces livres étaient connus. Et à l'époque où j'étais à Metz, faisais partie des curateurs de la bibliothèque du cercle militaire et j'avais fait acheter ces ouvrages que je connaissais bien.
Vous êtes à Fès, au Maroc.
Alors au Maroc,
époque, quelle est l'ambiance?
Au Maroc, je suis arrivé dans le courant du mois de août-septembre, j'ai été affecté à un régiment d'artillerie, le 64e, qui était stationné à Meknès. Me suis donc présenté à Meknès au colonel Nardin, qui m'a affecté à un groupe séparé, qui lui était stationné à Fès. Et à Fès, on m'a donné le commandement d'une batterie, qui elle-même, à cette époque-là, se trouvait aux travaux de piste, c'est-à-dire dans le nord du Maroc, à des, comme le nom l'indique, des travaux matériel, des travaux de piste. Je succédais là à Mirambeau, que j'ai retrouvé par la suite, et donc j'ai pris le commandement de cette batterie. Alors l'état d'esprit à l'époque était évidemment très contrasté d'un endroit à l'autre. Lorsque j'étais à Alger, l'état d'esprit était, comme beaucoup d'endroits dans l'armée française, très désireux de continuer la lutte, en même temps qu'on se rendait compte que l'Algérie, n'ayant aucun moyen industriel, rien du tout, ça paraissait extrêmement difficile. Et puis, il y a eu toute la propagande Pétain à jouer. L'armée s'est trouvée à la fois frustrée, mais en même temps exonérée de la défaite, d'autant plus que les bribes d'armée française qui ont rejoint l'Algérie se sont trouvées prises au milieu de l'armée qui, elle, n'avait pas bougé, qui n'avait pas été concernée physiquement par la défaite et qui était au fond très heureuse de cette fin de partie, pour ainsi dire. Lorsque je suis arrivé à Meknès, l'esprit était assez désagréable. Comme vous savez, je suis juif. Et être juif dans l'armée à ce moment-là n'était pas une chose bien agréable. J'ai donc pas aimé du tout l'ambiance de Meknès, où j'ai dû me défendre et rappeler à des officiers que je rencontrais au Metz ou à d'autres endroits qu'il y avait des paroles que je ne tolérerais pas. En général, les gens se sont tus, mais enfin l'ambiance était très désagréable. Quand je suis arrivé à Fès, j'y suis resté très peu et je suis allé donc prendre le commandement de cette batterie dans le Nord. Et j'y étais le seul officier à ce moment-là. Les sous-officiers de la batterie ont été absolument épatants, charmants. Ça a été une période, au fond, agréable. En ce qui concerne ma vie personnelle. Toutefois, j'étais prévenu de l'imminence de lois contre les juifs, l'ambiance d'ailleurs me l'indiquait, mais j'avais un ami qui se trouvait à Vichy et qui m'avait écrit. J'ai donc voulu donner ma démission. Je suis allé voir mon colonel qui m'a rassuré, qui m'a vraiment, avec beaucoup de cœur, rassuré en me disant, mais non, ce sont des paroles, ce sont des choses qu'on donne aux Allemands pour leur faire plaisir, ça ne peut évidemment pas vous concerner, il n'en est absolument pas question, il n'est pas question que vous me donniez une lettre de démission, rien. Et puis, les lois antisémites ont paru, et j'ai donc dû quitter l'armée. J'ai été très entouré par les deux officiers que j'avais à ce moment-là à Fès, où j'étais revenu pendant l'hiver, les lieutenants Boissin et Rochelet. Boissin est devenu général par la suite, et tous mes sous-officiers, tous ces gens-là m'ont entouré d'une façon absolument parfaite. J'en ai gardé un souvenir excellent.
Ça se passait en avril 41.
Alors ça se passait, mon départ de l'armée s'est passé en avril 41. Et je veux dire qu'ils m'ont fait une conduite magnifique. Je vous dirais que quand j'ai quitté mon hôtel pour aller prendre le train tout bonnement, parce que je quittais Fès, je ne voulais pas rester à cette ville où je n'avais rien à faire, j'ai trouvé en bas de chez moi une calèche avec un cocher, et puis tous mes deux officiers, tous mes sous-officiers à cheval qui m'ont conduit comme on conduisait autrefois le président de la République dans sa calèche à la Daumont, qui m'ont amené à la gare comme ça. Enfin, c'était extrêmement touchant.
Mais sous quelle forme vous a été notifiée cette éviction?
Ça m'a été notifié par mon colonel qui m'a fait venir, qui m'a dit ses regrets. On m'a remis un papier que j'ai perdu d'ailleurs, me disant que j'étais remercier en tant que juif.
Vous donnez les motifs?
Oui, oui, loi sur les juifs. Et alors, il y a eu naturellement des gens qui ont été compatissants, d'autres qui ne l'étaient pas, il y en a même qui ont été parfaitement idiots. Le colonel Nardin était, si gentil qu'on peut l'être, a été désolé. Son attitude a été parfaite. Mais comme je n'ai pas voulu partir en honteux, je suis allé me présenter à Rabat au général qui commandait l'artillerie du Maroc. Il y avait un poste qui n'existe qu'au Maroc, J'étais un poste administratif, je suis allé voir le général Renin pour me présenter, et tout ce qu'il a trouvé à me dire m'a dit « Oh ben maintenant vous allez être civil, vous allez gagner beaucoup d'argent. » Ce qui était ajouté une insulte, en fait, aux choses. Bon. J'avais évidemment toujours envie de partir, rejoindre des forces combattantes quelconques. À ce moment-là, tout de même, on savait que le général de Gaulle avait réussi à réunir quelques personnes autour de lui, qu'il était à Londres. C'est un dissident, comme on disait à l'époque. L'ambiance était dans la vie civile dans laquelle j'entrais n'était pas désagréable, pas spécialement désagréable. Les mesures contre les Juifs ont été atténuées dans toute la mesure du possible par le résident général au Maroc, le général Doguès, dont je ne sais pas exactement quels étaient les motifs réels, mais enfin, il avait certainement des préoccupations politiques. Il ne voulait pas d'agitation, donc pas d'étoiles jaunes, pas de choses comme ça. Moi, j'ai eu de graves problèmes parce que je n'avais pas d'argent, il fallait vivre, et je n'ai pas trouvé beaucoup de secours pour trouver une situation. Il me fallait manger tous les jours.
Et qu'avez-vous fini par dire ?
Alors, j'ai fini par trouver, j'avais heureusement un lointain cousin qui était un garçon plutôt riche, agent de change de son métier, et qui, sentant la guerre venir dans les années précédentes, avait acheté une usine au Maroc, et j'étais allé le voir. Et puis, nous avions toujours été en très très bons termes. Quand il a vu que je ne trouvais pas de situation, il m'a dit « Écoutez Jacques, je vous prends à Fedala dans mon affaire, vous me rendrez toujours quelques services. » Donc, j'ai été chez lui avec la possibilité donc de vivre. Alors, j'ai cherché naturellement à partir pour l'Angleterre, toujours par Gibraltar, qui était le point le plus proche. Alors j'ai eu deux tentatives qui n'ont pas réussi. Entre-temps, bien sûr, je m'étais mis en contact avec le consulat américain et je donnais au consulat américain les renseignements que je pouvais leur donner sur les mouvements de bateaux à Fedala. Enfin, c'était, si on veut, un réseau de résistance, mais on n'avait pas l'idée d'appeler ça réseau de résistance. C'était tellement rien du tout qu'on n'aurait pas osé se parer d'un tel nom. Enfin, ça a tout de même eu quelques ennuis, parce que tout ce réseau a été arrêté, presque. Il y avait à la tête un garçon qui s'appelait Oney, qui était directeur général de la Shell au Maroc. Il y avait avec moi André Pélabon, vous avez peut-être connu par la suite. Vous l'avez connu ?
Oui.
Enfin, il y avait ce genre de gens. Et moi-même, j'ai été arrêté par la police, qui ne m'a pas gardé. Je veux dire, je l'ai pris très haut, et puis peut-être étais-je un peu protégé. Et j'étais assez insouciant pour plusieurs raisons. D'abord, je n'étais pas marié, je n'avais pas de femme, pas d'enfant, donc pas d'autres responsabilités à assumer que les miennes. Et je n'avais pas... J'avais le sentiment que si on me traduisait devant un tribunal militaire, mes risques étaient très faibles. Les membres du tribunal militaire, je les connaissais. Il y avait notamment un officier que j'avais connu à Metz, comme chef d'escadron, qui devait être colonel à cette époque-là, le colonel de Vinck. Je savais très bien qu'on ne me couperait pas le cou. Ça rend la vie quand même infiniment plus facile. Et puis, il m'arrivait de rencontrer tout de même, de temps à autre, ne serait-ce que dans la rue, des officiers d'un grade élevé, comme le général Vergès, des gens comme ça, qui ne me cachaient pas du tout que personne ne se soucierait beaucoup si j'arrivais à m'en aller. Enfin, c'était tout de même pas très, très, très facile.
Je vous trouve un peu modeste quand même, car il s'agissait d'un vrai réseau de renseignements, si je suis bien.
Oui, bien sûr, mais enfin,
qui a fourni au consul américain des renseignements.
Certainement, mais c'était pas. Nous n'avions pas des risques énormes. Et puis, je ne sais pas si jusqu'à quel point la police a poussé ses investigations, parce que quand on m'a arrêté, on m'a interrogé pendant 5 ou 6 heures, puis j'en ai eu assez, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce que je fais là ? M'interroger comme quoi ? De quoi m'accuser de quelque chose ? Ou bien, non, non, pour le moment, vous êtes témoin. Je dis, bon, ben, témoin, c'est parfait, mais 5 ou 6 heures d'interrogatoire, c'est beaucoup pour un témoin. Moi, je serais fatigué, je m'en vais, puis je suis parti, on m'a laissé partir. Bon, le lendemain matin, il a fallu revenir, bien entendu. Mais ça s'est quand même passé dans une ambiance qui n'était pas du tout l'ambiance des poteaux d'exécution. Voilà.
Votre autorité, votre grade ont dû tout de même peser un peu dans la balance.
Peut-être. Puis,
Vous gardez toujours ce projet de partir.
Je garde ce projet de partir.
Il faut le concrétiser.
Les Américains ne sont pas très pressés, mais quand même, comme je suis observateur en avion, que le personnel ayant de l'expérience en matière aéronautique est peu nombreux, on me met sur une liste et un beau jour, on me dit ben, le moment est venu de partir. Ça s'est passé de façon très très curieuse parce qu'en fait, la personne qui nous a pris en main réellement était, je crois, le consul ou un des consuls de Grèce à Casablanca. Alors, on nous a réunis quelques-uns dans une ou deux chambres, et puis on nous a dit, vous attendez là les instructions. Alors, notre départ a été très, très amusant, parce que au beau milieu de la nuit, on nous a fait aller au port de Casablanca, et à un endroit qui était préparé par ces gens-là, nous avons pu entrer dans le port proprement dit. C'est-à-dire que le port était entouré, la zone portuaire était entourée d'un grillage, d'une grille, qu'on ne pouvait pas franchir, mais il y avait des portes, forcément. Une porte s'est entrouverte, nous sommes entrés là. On nous a conduits par des labyrinthes, sur le sol, mais par un chemin compliqué jusqu'à un petit bateau, qui était un petit bateau portugais qui venait chercher du phosphate à Casablanca. Et nous nous sommes enterrés dans le phosphate qui était chargé dans ce bateau. Nous sommes enfoncés là-dedans, dans cette espèce de moitié poudre, moitié caillou. C'était assez drôle. Et comme ça, les douaniers qui ont inspecté la cargaison ne nous ont pas vus ou ont eu la possibilité de ne pas nous voir, parce que ça, je ne le sais pas non plus. Et lorsque le bateau a eu quitté le quai, nous sommes partis sans encombre. Nous sommes restés dans notre phosphate pendant un moment, puis nous sommes pu monter sur le pont. Mais c'était un voyage pas très confortable. C'était un petit bateau et toute la journée, nous étions obligés d'être sous le pont pour ne pas être vus des avions que l'armée de l'air française au Maroc pouvait envoyer. Et puis au bout de 2 jours, nous avons été arraisonnés par une frégate anglaise. C'était un rendez-vous, bien entendu. Et on nous a amenés à Gibraltar.
Alors à Gibraltar, vous rencontrez qui ?
Alors à Gibraltar, c'est très amusant parce que à Gibraltar, il y a une mission française qui est là, il y a un ou deux officiers qui se trouvent sur le quai quand nous arrivons. Nous sommes 5 ou 6 Français dans ce bateau. Alors on nous fait débarquer et à côté de ces Français, il y a un magnifique officier anglais, superbe. Alors qu'il nous salue comme ça, comme font les Anglais, je le regarde bien, il avait une très belle casquette et dessus il y avait écrit Waterloo. On s'est trompé d'endroit, c'est une curieuse chose. Bon alors là, ça s'est passé très agréablement. On est rentré dans une vie quasiment militaire. La mission française qui était là nous a donné 4 sous pour avoir un peu d'argent de poche, nous a fait prendre une identité pseudonyme. Parce que Gibraltar était une ville archi-surpeuplée à ce moment-là. Outre beaucoup de troupes anglaises, il y avait tous les ouvriers de l'arsenal, et parmi lesquels plusieurs milliers d'Espagnols qui venaient tous les jours travailler depuis la Linéa, qui est en face de Gibraltar. Et naturellement, il y avait beaucoup d'espionnage. Donc on nous a obligés de changer d'identité, et puis nous n'avions rien à faire que d'attendre. Et on nous a dit, vous attendez le prochain convoi qui reviendra d'Alexandrie ou de Malte, je ne sais où, et on vous mettra sur ces bateaux. Et puis, j'ai eu la chance toujours, nous avons été interrogés, bien sûr, par le MI5 à Gibraltar, ils étaient très renseignés, ils savaient parfaitement qui j'étais, connaissaient mon pedigree parfait, et au bout de 3-4 jours, je me trouvais à la plage, en quelque sorte, c'est-à-dire au bout du terrain d'aviation, mais au bord de l'eau, en train de prendre un bain, j'ai vu arriver un sergent qui m'a dit « Est-ce que vous voulez partir ce soir pour l'Angleterre ?» J'ai dit « Oui, oui. Bah, un avion va y aller, vous en êtes, très bien. » Et effectivement, le soir, à 10h, on est venu me chercher à l'hôtel, on m'a amené à cet avion, et alors je me suis trouvé devant un Dakota, dans lequel il y avait d'énormes bidons à l'intérieur de la cabine, et on nous a dit, ben voilà, vous partez pour l'Angleterre, les bidons qui sont là, c'est de l'essence. Parce qu'il y a des Junkers 88 qui se promènent la nuit dans la baie de Biscaye, donc l'avion va faire un très grand tour dans l'Atlantique et le voyage sera long.
Oui, c'est pas rassurant quand même.
Bon, c'était pas très... C'était surtout très inconfortable.